Mais c'est la bande originale et le spectacle continue avec Léla Kanouboudadi.
Bonjour à tous.
Louis Aubin, Albert Algou. Daniel Mandel. Tanguy Bassolo sera là tout à l'heure. Et nos invités sont Laure Calami et Vincent
Deville. Non.
Vincent.
C'est pas vrai.
Laure.
Ravi.
Tu vas péter un tympan.
Ravi de vous accueillir. En tout cas, merci de venir nous parler de Marivaux, puisque vous serez au Théâtre de la Porte Saint-Martin. La mise en scène est de Catherine Yégel, qui décidément, en ce moment, en termes de classique, voilà.
Excelle.
A mis les bouchées doubles.
Pour une fois qu'elle bosse.
Aux côtés de Clotilde M, Nicolas Maury, Alain Pralon, Cyril Tournevin
et. Tout venin.
Vous
avez Tournevin.
Mais ça, c'est le réveillon qui reste encore.
Génial, Cyril Tournevin, qui était aux côtés de Laurent Lafitte pour son premier one-man show. C'est un génie, Cyril.
Ouais. Et autre génie, Marivaux. On en parlera tout à l'heure de Marivaux avec Stéphane Kerber, qui est notre invité, qui est un spécialiste de Marivaux. C'est la première fois que vous jouez du Marivaux, parce que maintenant, ça devient un nom commun, avec le Marivaudage, dont on va évidemment parler. Laure, vous avez déjà joué du Marivaux?
Non, jamais.
Jamais?
C'est la première fois. Enfin, j'en avais travaillé au conservatoire. Voilà. D'ailleurs, enfin, non, pas avec Catherine Yégel. Mais voilà, oui, non, c'est la première fois, mais c'est un auteur que j'aime
énormément. Et Catherine Yégel, vous aviez déjà travaillé ensemble?
Au conservatoire, c'était ma professeure. Et depuis, voilà. Donc, c'est
génial.
Un peu des retrouvailles.
Non, ça doit être émouvant.
Après
quelques semaines. Après quelques semaines d'absence, c'est bizarre. Et Vincent Dedienne, alors, on a l'impression, Vincent, que c'est un événement que vous soyez au théâtre. Et pourtant, pratiquement tous les ans, depuis quelques années, vous avez déjà joué.
Ouais.
Mais c'est vrai que là, dans la communication, dans les papiers, dans les interviews, Vincent Dedienne est au théâtre comme si...
Ah ben oui, parce qu'on m'a découvert à la Téloche.
Oui, la télé. La radio, le seul en scène.
Oui.
Mais en fait, mais vous avez déjà joué et des classiques aussi.
Des classiques, beaucoup. Ouais, j'ai passé plus de temps à jouer des classiques et du théâtre pas rigolo.
Qu'aller à l'école. Pardon. C'est vrai,
oui, parce que je suis un cancre. Non, en fait, moi, j'avais jamais travaillé Marivaux, dans le conservatoire que j'ai fait à Saint-Étienne, et je l'ai jamais joué. Ça, c'est la première fois que je l'aborde.
Alors, première pour tous les deux.
Ouais. Et première ensemble aussi. De la difficulté à jouer un texte justement écrit en un français précieux, puisque le marivaudage et la préciosité vont ensemble. C'est difficile d'employer des mots qui sont même plus du tout utilisés aujourd'hui.
Oui, non.
Non,
parfois,
mais dans le rythme, dans la diction, dans le jeu, dans le naturel.
Bien sûr, ça, il y a une difficulté, mais il y a une excitation aussi à trouver. Le plaisir, justement, de formuler les choses de cette manière. Alors, parfois, oui, il y a des mots, ce qu'on disait, par exemple, ce magot, qui veut dire ce singe. Bon, on ne peut pas l'entendre.
Ce qu'on disait hors antenne, je rappelle, on en parlait
c'est
juste avant de démarrer
l'émission.
Le mec, il dit, mais je comprends pas, j'ai écouté l'émission depuis le début, de quoi il parle. Oui, on disait qu'il y avait des mots comme, vous traitez, le personnage de Vincent Dedienne de magot.
De magot, oui.
Et donc, le magot, en l'occurrence, c'est pas un trésor d'un pirate.
C'est l'inverse.
C'est un singe.
C'est un singe. Il va me traiter d'ailleurs après de magotte. Mais voilà, donc il y a des choses comme ça. Bon, malheureusement, où on sait que
mais
ce
ne
sera
pas
forcément.
Beaucoup.
Mais non, il n'y en a pas tant que
non,
ça.
En fait,
non, non, c'est... complètement.
C'est non, mais énorme, on comprend, quand même difficile,
mais on comprend très bien.
Il y a une fluidité extraordinaire, la langue de Marivaux.
Ouais. Et puis c'est une chasse au trésor pour les acteurs. C'est justement d'arriver à rentrer dans la langue et à faire en sorte qu'elle soit audible et maternelle. Que ça devienne une langue maternelle.
Ouais.
C'est ça, c'est une recherche qui est passionnante.
Et parlons du fond de l'histoire. Pardon, je vous en prie, Laure.
Non, puis je trouve que selon les personnages, il y a vraiment une grande modernité, en fait, dans la manière de parler. Par exemple, Sylvia, dans ses introspections, etc., il y a vraiment quelque chose qui est très proche.
Alors, on va parler des personnages. Ce qui m'intéressait, c'est que c'est vrai que entre ce que l'on peut voir de vous dans 10% ou au cinéma, ce que l'on peut entendre des papiers... brillant et bruyant pour certains dans le quotidien de Vincent Dedienne. C'est vrai que vous maniez la langue, sa modernité, son débit, des intonations d'une manière très moderne, très actuelle, et que là on tombe au siècle de Marivaux avec cette langue, avec les costumes, j'imagine, puisque encore une fois nous avons eu le plaisir de relire
le
texte, voilà, c'est ça, pour se replonger dans l'histoire, et on va en parler de cette histoire. Mais c'est vrai que entre la mise en scène de Catherine premier gel, les costumes et la langue française, si fluide soit-elle, mais qui reste quand même inscrite dans le temps, voilà. Ça doit être un exercice particulier. Mais vous dites jouissif, tant mieux. Vous y trouvez du plaisir, je suis sûr que le public en trouvera aussi. Et on voit d'ailleurs au casting, on se dit ça va être naturellement joué.
Ça va être très joué. Et puis l'intérêt aussi de ces textes-là, de les ressortir, même si, on ne va pas se mentir, Le jeu de l'amour et du hasard, c'est un des textes les plus joués en France et à l'étranger. C'est aussi l'occasion de donner à entendre une autre lecture du texte, de le faire sonner différemment avec nos préoccupations contemporaines, tout simplement. Mais il faut peut-être qu'on rappelle l'histoire.
Allons-y.
Alors, donc, l'histoire.
C'est toi qui t'y colle.
Je m'y colle. Sylvia doit, interprétée par Clotilde M, mais ça on le dira après. Non, mais je ne vais pas les faire tous.
Ça commence très mal, cette année. Ça commence très mal.
Tu l'as dit pendant.
Sylvia, fille d'Orgon. Sylvia, fille d'Orgon, doit épouser un certain Dorante, ne le connaissant pas. Plutôt que de le rencontrer comme ça, elle propose à son père de se faire passer pour la servante et d'aller ainsi à la rencontre de son futur époux.
Pour pouvoir l'observer. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est plutôt confortable dans cette situation, c'est que ce n'est pas un mariage forcé du père qui dit tu vas te marier avec un tel et tu ne peux rien dire. Il va dire j'ai en effet un bon ami, il a son fils, on pense que ça serait bien que vous mariez l'un l'autre. Mais la fille dit mais moi je voudrais bien l'observer quand même avant de me marier si je n'aime pas. Ah mais si tu ne l'aimes pas, tu n'es pas du tout obligé de te marier avec lui. Et, s'il ne te plaît pas, il n'y a rien de forcé.
Voilà, ce qui est plutôt moderne. Pour l'époque, exactement.
Et donc là, il accepte ce jeu.
Il accepte parce qu'au départ, il lui dit il va arriver, etc. Donc elle, il y a quand même une crise. Hein, c'est pas, y a pas de problème. Tu vois. Donc elle pense à ce stratagème pour pouvoir l'observer effectivement tel qu'il est.
Donc elle voit, elle en disant, tout simplement, ma soubrette que vous jouez, voilà, Lisette. Donc que vous jouez, Laure Calamy va donc prendre le rôle de la fille
de la maîtresse,
et inversement.
C'est ça.
Et maîtresse et servante en fait.
J'aimerais savoir si quelqu'un a compris le pitch de l'histoire.
Attends parce que là, on en est que à 50% de l'histoire,
même à 10%.
Et ben Vincent, tenez, vous allez prendre le relais parce qu'une fois qu'il y a eu cet échange entre Lisette et Sylvia.
Eh ben, là où Marivaux est un dramaturge génial et pervers, c'est que, en fait, le mari, enfin, le futur époux, Dorante, a la même idée et demande à son valet Arlequin, que j'interprète, de se faire passer pour lui. Donc, en fait, tout le monde est masqué dans cette rencontre. C'est un jeu de dupes. Il n'y a que le père et le frère qui sont au courant de tout.
Mario Orgon. En fait, les deux nobles, les deux bourgeois jouent les employés de maison et les deux employés de maison jouent les bourgeois.
Les maîtres.
Les maîtres, voilà. Les maîtres. Et c'est assez drôle de vous imaginer en valet qui se force à avoir de l'autorité ou à donner des ordres à.
Qui s'amuse aussi à le faire.
Qui s'amuse
c'est ça où c'est très drôle. Il s'amuse à le faire.
Et là où c'est très beau, je trouve, de la part de Marivaux, c'est qu'il ne se moque pas du tout des personnages des valets. C'est-à-dire que c'est pas. D'un seul coup, quand les valets doivent jouer au maître, il ne leur met pas un langage raté, il les bourre pas de maladresse ou de ridicule. Ils savent vachement bien le faire. En fait, ils ont tellement.
Il y a juste Arlequin qui en fait un peu plus.
Arlequin, il en fait un peu trop.
Ouais. Parce qu'il s'amuse, il a observé ses maîtres.
Il a observé, il a vu. Et surtout. Ils ont subi une violence sociale depuis des années et des années, et que d'un coup ils peuvent
la revanche.
Voilà, c'est la revanche. Ouais.
Il est singe ou il est magotte, d'ailleurs, on disait à l'époque. Hein, on disait beaucoup, il est magotte. Réunion de babillards autour de cette
table. C'est une pièce géniale.
Mais alors justement, est-ce qu'elle a une morale? Est-ce qu'il y a un enseignement là-dedans? Parce que c'est vrai que dans cette pièce, c'est quand même l'amour qui l'emporte, puisque chacun va choisir sa chacune et que de ce côté-là, il n'y aura aucun mariage forcé. Ou est-ce que c'est quelque chose qui est plus, on va dire, violent sur l'air du temps et sur le rang social, Laure?
Oui, c'est plus compliqué que ça, puisque effectivement... Il y a quelque chose où les deux, le valet et Lisette, enfin Lisette et Arlequin vont quand même, en croyant s'adresser au maître et à la maîtresse, espérer ce rang social, etc. Et le rêve va s'écrouler. Ils ont vécu un rêve éveillé. Et ça va s'écrouler à la fin, c'est quand même extrêmement violent.
Oui, parce que la soubrette, elle, croit vraiment s'adresser au réel noble.
Croit vraiment que
noble,
ce maître l'aime.
Et qu'elle va pouvoir changer de rang et de statut social.
C'est une dévastation. Enfin, il y a quelque chose quand même pour chacun qui est vertigineux. C'est, et en même temps, bon, voilà, c'est, ils vont, il leur reste leur amour. Bon, mais.
Mais ça suffit pas.
Est-ce que ça suffit? Non, mais justement, la question est là.
Non, mais on peut voir l'autre côté. On peut voir l'autre aspect aussi. C'est que Sylvia va tomber plutôt, non pas amoureuse du maître qu'elle va observer, mais de son alter ego, du valet. Voilà. Et donc, c'est se dire qu'une maîtresse est capable aussi. Soit on peut avoir cette lecture-là, c'est que les classes se reconnaissent, soit on peut aussi se dire que tout d'un coup, cette maîtresse travestie en servante est capable de s'amouracher de quelqu'un qui n'appartient pas à sa classe sociale.
Oui. Mais en même temps, tout est dit, enfin, les personnages disent, mais quel homme pour un valet, mais etc. Oui. Parce que dans ces formules dorantes, jamais ne tente d'avoir, je sais pas, d'imiter ce parler plus simple, populaire. Je ne sais quoi, ouais. Plus populaire. Voilà, il garde ses formules, etc. Et les autres le signalent. Donc, voilà.
Excusez-nous, on
donc,
fait des bises à Thierry Lhermitte. Voilà. Excusez-nous, c'est bon, voilà.
C'est marrant, il y a Thierry Lhermitte.
C'est marrant.
D'accord.
Mais c'est pas le vrai Thierry Lhermitte, hein. C'est un hologramme. Bon. Ah non,
ah oui, d'accord.
Bah non, ça sort. Ah oui.
France Inter. Non,
mais du coup, ce qui est intéressant, je trouve, c'est aussi comment ressort l'éducation de chacun. Et en même temps, c'est plus complexe que ça, puisque eux les ont tellement observés qu'ils peuvent quand même, justement, avoir cet esprit, cette langue. Extrêmement être habile, etc. Mais voilà, malgré tout, il y a quelque chose qui est
puis
assez
ambivalent.
C'est
une pièce aussi sur les mouvements secrets du cœur, les atermoiements. C'est une pièce sur l'amour aussi. Eh ben, et là, ça a une portée universelle.
C'est dans le titre.
Tout
hein,
à fait actuel.
C'est une pièce sur l'amour et sur le hasard. C'est une sorte de jeu, en fait. D'où la très bonne idée, quand même, de Marivaux, qui, bien
c'est
avant
bien
les
fait,
autres,
hein.
Oui, avait mis dans le titre tout ce qu'il y avait dans la pièce. Le jeu de l'amour et du hasard, ça sera du 16 janvier au 29 avril prochain, du mardi au vendredi à 20h, au théâtre de la Porte Saint-Martin, avec matinée et le samedi et le dimanche. Vous n'allez pas chômer pour ce début de. Rien de l'entendre, mais vous vous dites, fois dans
déjà,
semaine.
On est. Hop, moi je viens de reprendre un petit
Juvamine.
Juvamine. C'est une blague des années 80.
Il faut le dire trois fois.
C'est comme Mercurochrome aussi. Mercurochrome, c'était trois fois. Mercurochrome, le pansement des héros.
Père Albert,
oui.
Avez-vous compris pourquoi Laure Calamy et Vincent Dienne étaient
Pourquoi? Encore et toujours la même question, mon cher Nangui.
Bah oui.
Moi qui pensais que ce changement d'année serait pour vous l'occasion de renouveler votre stock de questions en le refourbissant de façon aussi inventive qu'inattendue, je constate qu'à peine débarqué de votre Falcon, vous n'avez de cesse de renouer avec une routine dont s'accommode d'ailleurs vos compars, cette bande de cossards autour de moi, là, qui se voudrait originale alors qu'elle n'est que banale. Pardonnez-moi cet aparté, cher Laure Calamy. Bonjour, Laure. Oui. Et pardonnez-moi cet aparté, Vincent. Bonjour, Vincent Dédien. Je reviendrai au jeu de l'amour et du hasard dont plaisantait à l'instant
Nangui.
Mais... comme, justement, Nangui risque de me rétorquer. Et vous, Père Albert, qu'avez-vous changé, hein? Qu'avez-vous changé? Dites-moi, puisque vous moquez de moi. Eh bien, d'abord, bien que ça ne se voit pas, sous ma soutane, j'ai changé de mon slip et mon tricot de peau annuel. Ensuite, si ma camionnette confessionnelle reste toujours bâchée de cuir clouté noir, je l'ai dotée de fonctions complètement nouvelles, désormais. Je fais aussi baraque à frites, ambulance, fourrière, automitrailleuse, camion boucherie triperie, dépanneuse, corbillard, transport de fond, véhicule plan vigipirate, dameuse de piste de ski de fond et benne à ordures. Mais, revenons au marivaudage. Alors, bien sûr, je vous ai entendu tous autour de cette table évoquer ce jeu subtil et délicieux qui permet la révélation du mouvement secret du cœur humain, où la finesse de l'analyse se marie à un langage admirable. Ok, très très bien, d'accord. Mais le marivaudage, renforcé ici d'une double imposture, où les larbins jouent les rôles des maîtres et inversement, ce qui annonce la révolution qui mettra l'ordre social cul par-dessus tête, le marivaudage est surtout une conversation inconvenante, tissée de phrases à double sens, qui d'une manière équivoque conduisent garçons et filles à l'impureté des plaisirs charnels qui ruinent la santé et causent les ch'touilles les plus honteuses. Ceci dit, pour être honnête, dans ma camionnette, j'incite mes jeunes en recherche à s'adonner au jeu de l'amour du prochain et du hasard. Alors il s'agit du jeu de Colin Paillard. Colin Paillard, ne pas confondre, ça se joue comme une partie de Colin Maillard, mais dans le noir absolu et entièrement nu sous son slip, comme Adam et Ève, et ce ne sont pas les yeux qui sont bandés. Alors, Vincent et Laure, je vous invite à venir vous éclater avec
c'est
nous.
C'est ça, merci. Hein,
on jouera aussi à saute-mouton et à chabite. En attendant, bonne émission.
Mais ça va pas, merci.
La bande originale, Nogi. sur France Inter.
Laure Calamy et Vincent Dedienne sont nos invités pour parler du jeu de l'amour et du hasard. Quel est l'apport de Catherine Yégel? Tout à l'heure, vous en avez dit le plus grand bien en tant qu'enseignante, mais en tant que metteuse en scène. Puisque c'est la énième fois que cette pièce est jouée, comment lui apporter une touche 2018
Ben, 2018 touch.
Tellement 2018.
Non, mais Catherine Yégel, elle a déjà, c'est une immense actrice.
Clairement, oui.
Et en fait, être dirigée par une grande actrice, ça fait que elle arrive à faire apparaître en une seconde les enjeux de la pièce et de c'est-à-dire que en fait effectivement on est en costume classique et tout ça, mais toute la modernité c'est nous qui allons la faire entendre, on n'a pas besoin de...
Excusez-moi, je suis désolé.
Pourquoi
modernité, je rigole parce que nous sommes juste en direct et qu'à votre montre il est 5h moins 20, donc je voudrais savoir ce qui se passe dans votre vie.
Parce que je suis décédé en fait, qu'elle est restée à l'heure de mon décès.
Ok, d'accord.
Mais vous voyez tout, vous êtes Sherlock.
Non, mais c'est pas ça. Ah, il est incroyable.
Ouais. Le problème, c'est surtout qu'il vous écoute pas.
Ah oui.
Il préfère regarder l'heure.
Là, c'est admirable.
Là, je m'en vais.
Il voit passer Thierry Lhermitte, Josiane Balasco. Il voit qu'il est 5h à ma montre. Il n'a rien à foutre.
Ouais, rien à foutre.
Non, mais elle est.
C'est gênant, c'est gênant.
Elle est très très douée, Catherine, parce qu'elle. Elle arrive à nous. Elle nous demande de faire entendre 28 sens en une réplique. Parce qu'en fait, Marivaux, c'est tellement dense, c'est tellement riche comme écriture.
Oui, mais parce qu'il n'y a pas de didascalie précise dans les...
À
part évidemment à voix haute, à voix basse,
oui, voilà.
dans le texte pour les fameux apartés, pour rendre complice le public, ce qui est toujours très agréable dans ce genre de pièces. Mm-hmm. Pour le reste, on ne sait pas trop les entrées, les sourcils, même... Les sourcils que vous avez. Même le décor en lui-même, est-ce qu'on est dans un décor totalement vide, abstrait, ou est-ce qu'on est dans du concret avec des portes qui s'ouvrent et se ferment?
Non, il y a un décor magnifique, enfin moi je le trouve extrêmement gigantesque.
Classique. Voilà,
mais c'est on va être dans un jardin en fait.
D'accord.
Voilà, il y a quelque chose avec donc beaucoup de végétal.
D'accord.
Autour de nous. Non, mais il y a quelque chose comme ça de... Ouais, de déjà organique.
Oui, parce qu'il y a aussi un jeu de cache-cache qui se fait ceux qui arrivent, qui entendent, qui n'entendent pas. Attention, quelqu'un va peut-être nous surprendre.
Les gens sont surpris, sont interrompus dans leur dévoilement ou non dévoilement.
Ouais.
Enfin, dans leur, il y a une pensée tellement ciselée, tellement qui se fait à vue, parce qu'il y a quelque chose dans ces introspections qu'a beaucoup Sylvia. Le spectateur peut jouir de voir la pensée de ce qui se passe, etc. Et voilà. Après Catherine, elle est extrêmement exigeante avec nous.
Sur le rythme, sur le débit, sur le...
Oui,
il y a un tempo à donner.
Sur la pensée longue, sur soutenir le texte absolument dans toute sa complexité. Et puis, je trouve que le fait d'être en costume classique, je trouve que c'est le meilleur moyen justement de faire apparaître cette modernité en fait. Plutôt que d'être habillé en contemporain. Enfin, je trouve qu'il y a quelque chose qui ressort d'autant plus. Ouais. Et en même temps, on est dans ce...
C'est-à-dire là, vous avez quoi? Une robe avec un décolleté profond et pigeonnant.
Caché
ce sein que vous ne saurez voir.
Ça l'intéresse.
Non, parce que c'est l'une de ses spécialités. Depuis que je sais qu'elle montre son sein sans que personne ne s'en aperçoive.
ça
ou de manière subliminale. Non, mais bon. Enfin, là, c'était un peu... Pardon, mais...
Ah ben, vous l'avez dit. Maintenant, comme l'a dit Vincent Dedienne, on va vous le sortir à chaque fois. Enfin, vous le sortir.
Non, mais en fait, je l'avais déjà dit dans un truc, c'est pour ça que... Mais bon, non, mais en fait, en plus, c'était bizarre de dire... J'étais traitée de nymphomane sur mon personnage de Noémie, qui n'a rien de nymphomane, mais bon.
N'est-ce pas?
Mais...
Non, bah, on revient à 10%, oui.
Ouais. Non, mais voilà. Bref, pour revenir à Marivaux, il y a ce costume au départ de servante, et puis après, oui, le costume de la maîtresse, effectivement.
C'est ça.
Et qu'est-ce qu'on apprend?
Ils sont magnifiques.
Et qu'est-ce qu'on apprend quand on joue un texte comme celui-ci, dirigé par Catherine Yégel? Vincent, vous évoquiez tout à l'heure les 28 propositions possibles pour donner cet exemple-là et pour le reprendre, sur l'intention de comment est-ce qu'on dit une réplique, comment est-ce qu'on la pense. Vous parlez de pensée longue. Est-ce que vous avez redécouvert des parts du texte ou qu'est-ce que...
Ah ouais, mais encore, la première est dans quoi, une semaine. Et ouais. En fait, à chaque minute de répétition, mais ça, c'est aussi les grands textes qui font ça. C'est qu'en fait, on a l'impression que ça se creuse et que ça se creuse et que ça se creuse. Et plus on dit le texte, plus on le lit, plus on le répète, plus on découvre de sens. C'est comme si on s'enfonçait dans un labyrinthe.
C'est angoissant, ça, non?
Et puis, c'est angoissant et magique.
Non, parce qu'il y a quelque chose où ce texte... il faut que ça provoque comme une érosion en soi, enfin de puisque il y a, je veux dire, on parle aussi d'amour et il y a quelque chose, il y a une phrase d'ailleurs, c'est dans une autre pièce où on peut éprouver de l'amour, mais le tout c'est de se le dire, de pouvoir se le dire, et c'est pas si évident, je veux dire, pour tous dans la vie. C'est ouais, une impudeur extrême de dire l'amour.
C'est trouver donc, l'amour en se faisant passer pour quelqu'un d'autre,
voilà,
aussi.
Voilà, mais donc ça permet d'autant plus de dire l'amour parce qu'on est masqué. Donc dans ce soi-disant mensonge, il y a une très grande vérité. Ouais. Donc comment cette vérité, elle provoque un bouleversement, enfin un flamboiement.
C'est là où c'est très moderne. C'est là où c'est très moderne, parce que
en fait, dire l'amour en étant masqué, ça fait penser à pas mal de choses.
À Facebook, à tous les réseaux sociaux, à ceux qui se cachent derrière des pseudonymes ou des avatars ou qui mettent des vraies ou des fausses photos de profil.
On parle bien là, Nagui.
Et chacun fait croire ce qu'il aimerait être ou rêve d'être quelqu'un d'autre que ce qu'il est, mais à un moment donné. Les sentiments arrivent. Ça va, Laetitia?
Ça va, Michel?
Le journal, Laetitia Tellier.
Il y en a un, il n'est pas revenu de vacances. Ça, c'est pas.
Et moi,
il est 5h20, là.
À ma montre, il est 5h15 maintenant.
Michel Blanc. L'angoisse.
Leïla, vos oreilles ont sifflé lorsqu'on vous a dit qu'aujourd'hui...
Thierry Lhermitte venait nous voir.
Richard Anconina et Ophélie Winter étaient nos invités.
Et oui, et quand je pense à vous, alors Vincent alias Richard, on connaît vos talents d'humoriste, bien entendu, mais quand je pense à vous, je pense à un talent, c'est celui de Lorca Lamy, notamment dans cet extrait.
Chiqui, Chiquita, elle a le regard qui tue, Chiquita, cheveux longs comme Nikita. Si elle me quitte pas, je la quitte pas. Elle a passé toute la nuit à me ploter. Elle est pas dans le même dél que les filles d'à côté. Je la regarde dans les yeux, en sirotant mon cocktail. Elle m'a vue dans le VIP, me prend pour un mec mortel.
C'est votre interprétation version cinéma d'auteur de Chiquita, du rappeur Jules.
J'adore, c'est un petit côté Fanny Ardant. Un peu.
Ouais, ouais, ouais. C'est ce que j'avais dit, oui, que j'allais faire en Fanny Ardant. Mais c'était dans le cadre d'une interview, bon... Ah oui, Vanity.
Oui, quelque chose comme plus. Ça, où vous dites interpréter des paroles de chansons, plusieurs comédiens s'y sont prêtés à ce jeu-là. Voilà. Vous qui avez travaillé avec Olivier Py, avec Vincent Macaigne, on vous a vu récemment au cinéma, avec les Podalides, pardon, avec Guy Roddy.
Est-ce que... Avec les Polaroids aussi.
Les Polaroids.
C'est compliqué
aujourd'hui.
D'ailleurs, elle n'a pas été prise. Elle n'aime pas les Polaroids. Elle pouvait faire les Podalides.
Est-ce que vous avez eu un temps, on vous a découvert sur grand écran, enfin à la télévision avec 10%, mais est-ce que vous avez eu peur d'être étiqueté un peu intello? Parce que quand moi je vois vraiment toute votre filmographie et votre parcours au théâtre, c'est extrêmement
J'aimerais
pointu.
J'aimerais bien être étiqueté intello.
C'est vrai.
Non mais bon... Non, enfin, je sais pas, c'est étrange.
Non, mais vous n'avez pas de crainte. Souvent, les comédiens qui passent ici nous disent, voilà, à un moment dans ma carrière, j'ai eu peur d'être simplement cantonné à ça et qu'on ne pense à moi que pour un certain nombre de rôles, un certain nombre de metteurs en scène et que ça m'isole, en fait, de la possibilité d'aller où je veux.
Tout faire, ouais.
Oui. Non, parce que, enfin, bon, puisque, enfin, 10% est arrivé assez vite et qu'il y a quelque chose. À la fois, c'est des gens de cinéma et en même temps, voilà, il y a effectivement quelque chose de grand public, etc. Mais.
C'est ce que disait Vincent tout à l'heure, c'est-à-dire que finalement, on le connaît par la télévision, mais en fait, Vincent, vous êtes tombé complètement dingue des textes d'Hervé Guibert, vous avez beaucoup monté ces textes au théâtre et c'est parce que le grand public connaît. Et finalement, là, comme on disait tout à l'heure, annoncer votre. Entre guillemets, retour sur scène, alors que c'est pas du tout un retour, c'est une façon pour le grand public de vous découvrir dans cet exercice-là.
Ouais, mais en fait, c'est bien naturel.
Ouais,
c'est
bien
normal.
Sûr. Puis, non, alors on veut pas.
Ouais, ouais. Et puis en plus, c'est plutôt. Moi, je trouve ça plutôt amusant de. En fait, il faut avoir la gourmandise. de rendre les gens gourmands. C'est-à-dire qu'en fait, les gens qui, par exemple, je me dis, les gens qui me connaissent, il est 5 heures, hein, donc,
c'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal.
Non, mais les gens qui me connaissent dans un exercice, j'adore me dire, plutôt que de dire, ah bah ouais, mais ils me connaissent que comme ça et pas autrement, ils sont gonflés. C'est à moi, je me dis, c'est rigolo de moi les emmener ailleurs, de dire, d'aller chercher.
Quand on dit, le grand public vous connaît l'un et l'autre plutôt dans tel ou tel, personnage registre. Ou registre, ça veut simplement dire que ça a été plus diffusé par la télévision à un plus grand nombre. Ça ne veut pas dire que le grand public ne vous aurait pas aimé dans un autre texte.
Non, mais c'est à nous d'avoir la curiosité et d'être assez aventureux pour aller les emmener ailleurs au prochain projet. Par exemple, moi j'adore me dire que les gens qui me connaissent de Canal+ ou de TMC et qui sont jamais allés au théâtre, par exemple, moi, quand j'ai joué mon spectacle...
Vous découvrez sur France 2 ou France 3 un truc fou, quoi.
Ouais, ou viennent voir du Marivaux. Non mais moi, par exemple, j'ai découvert Victor Hugo parce que au théâtre de Mâcon, les places étaient à 12 francs et Philippe Noiret lisait les contemplations de Victor Hugo. Et moi, j'aimais Philippe Noiret parce que j'avais vu Les Ripoux et j'aimais cet acteur et je suis allé voir l'acteur des Ripoux et je suis ressorti avec Victor Hugo.
Exactement.
Mm-hmm. Et aussi parce que les places étaient pas chères. Oui. Non mais c'est vrai.
Ouais, parce qu'il y a une vraie politique.
Donc, moi, j'adore ça. J'adore me dire quand j'ai joué mon spectacle, par exemple, en tournée, j'avais mon public France Inter et Télérama qui était là, qui avait l'habitude d'être abonné.
Qui n'est pas toujours le même, attention.
Qui n'est pas toujours le même, mais qui est habitué à être abonné au théâtre. Et il y avait aussi les adolescents, les adolescentes ou les autres gens de TMC, machin, qui parfois venaient au théâtre pour la première fois et ça faisait des salles un peu mêlées, des générations mêlées, tout ça. Et ça, je me disais, ben là, moi, j'aime bien mon métier.
Le pari réussi, dans ce cas-là.
L'avantage, c'est qu'il y aura le public de Quotidien, le public de 10%, le public des revenants aussi, avec Clotilde M, qui vont découvrir. Mais c'est l'intelligence aussi du casting.
Ouais, ouais, et puis le public de tellement de choses. Parce que par exemple, quand je joue avec Vincent McCain, tout ça, c'est quand même des centaines de personnes qui viennent. Ouais. J'ai parfois, un jour, en allant acheter une lampe, une dame à Paris qui d'un coup me dit, j'ai cru qu'elle allait me parler 10%, non, elle me parle du spectacle de Vincent qu'elle avait vu. Enfin, je veux dire, c'est pas non plus, ça se mesure pas non plus.
C'est pas aussi cloisonné que ça.
Voilà, c'est ça, je crois qu'il y a quelque chose. Et puis moi, quand vous me dites ça, moi, je réalise mon désir. Donc moi, je suis très heureuse. Je suis pas en train de me dire... je travaille, que ce soit Guy Roddy, Léa Misius dans Ava, enfin...
Non, mais la question, c'était ça.
J'ai tellement l'impression de me réaliser dans ce que j'aime que non, il n'y a aucun...
Non, mais la question, c'était vraiment ça. C'est de se dire à quel point on peut continuer à se réaliser sans être étiqueté et donc moins appelé.
Mais ça n'est pas mon problème. C'est vous qui vous en moquez, d'ailleurs, dans votre seul en scène. Quand on dit Strindberg...
Oui.
C'est ça, non ?
Du théâtre classique.
Bah oui.
Enfin, du théâtre classique, pas classique, mais du théâtre de l'esprit de sérieux.
Le ton sur lequel même c'est dit, quoi.
Oui, oui. Bah oui, mais parce que moi, par exemple, moi j'ai rêvé, quand j'étais adolescent, en fait, moi, à l'intérieur de moi, il y a plein de choses a priori irréconciliables qui sont réconciliées depuis l'enfance. C'est-à-dire que moi, j'ai rêvé du music hall, en gros.
C'est de la psychanalyse, hein.
Bah, je sais pas, je connais pas. Non, mais voilà, moi, j'ai rêvé de music hall. Je suis arrivé dans une école, au berceau de la décentralisation théâtrale, qui est la Comédie de Saint-Étienne, qui est une école nationale supérieure d'art dramatique, où j'avais que des gens qui ne connaissaient même pas Pierre Palmade. Et moi, je rêvais que de Pierre Palmade et de Muriel Robin. Et après, moi, j'ai dit, bah ouais, mais moi, c'est ça que j'aime. Après, je suis sorti de ça. J'avais joué Hervé, j'avais découvert Duras, Hervé Guibert, machin. Mais j'ai fait un spectacle où il y a et Sapritch et Muriel Robin et Duras et Guibert, machin. Donc, en fait, on a l'impression que le public est aussi plus bizarre que ce qu'on pense, et plus multiple,
hétéroclite. C'est valable pour la musique comme pour le cinéma, comme pour tous les arts. Absolument. Le jeu de l'amour et du hasard, c'est du Marivaux. On va en parler également de Marivaux et de son travail avec Stéphane Kerber dans quelques instants. Mais d'abord, voici l'humeur de Guillermo Guise.
Bonjour les amis. Bonjour les amis. Alors vous le savez certainement, la 75e cérémonie des Golden Globes se tenait cette nuit à Los Angeles. Du coup, comme j'ai écrit mon texte hier après-midi, je vais plutôt vous parler de Blaise Matuidi. Alors là, il y a Nagui qui se fait trop de la teub et tout, du foot. J'ai bien fait de pas le virer en décembre.
Le problème, il a eu des soucis, le pauvre.
Exactement. Et Nagui, le foot, c'est sa troisième passion après la musique live et les drogues en sachet. Et pareil pour Daniel Morin qui a longtemps entraîné une équipe de jeunes, vraiment avant que des allégations, blablabla, que les parents auraient redécouvert que. Moi j'ai toujours, c'est facile d'accuser sans preuve. Derrière, ça fait des gens improvisés qui sont obligés de faire 39 chroniques par semaine pour s'offrir les avocats un temps soit plus compétitif. Eh bien, malgré les souvenirs douloureux, Daniel m'encourage toujours à oser parler de foot sur France Inter. Alors, une chaîne où l'amateur de foot est pourtant considéré comme ce qui rapproche le plus Homo sapiens des petits singes primitifs du Crétacé. C'est pas du mépris, c'est de la curiosité. Vraiment, je me rappelle la saison passée, j'ai fait une chronique sur le foot. La patronne de la chaîne, Laurence Bloch, est venue personnellement le féliciter. Après l'émission, elle m'a dit « Vous vous exprimez très très bien pour quelqu'un issu de la différence mentale. Bravo Ernesto. Mais la prochaine fois, parlez-nous du cinéma bosnien, vous serez gentil. » Bref, samedi, la Juventus de Turin a gagné 0-1 à Cagliari, un match entaché par les insultes racistes qu'a subi le joueur français de la Juve, Blaise Matuidi. Et je profite de cette tribune pour m'adresser directement aux nombreux supporters racistes de Cagliari qui nous écoutent. Alors déjà, merci pour votre fidélité. On a besoin de vous, les gars. 1 800 000 auditeurs, tu les fais pas uniquement avec des leaders de ZAD, des profs de langue morte et des graphistes momentanément sans emploi fixe. Ah non, 1 800 000 auditeurs, on a forcément des supporters sartes férus de violence verbale gratuite à l'encontre de joueurs noirs, pour paraphraser Thierry Roland. À eux, je voudrais rappeler deux petites choses. La première, le racisme, c'est pas une opinion. C'est un délit, voilà. Et de deux, ils sont italiens. Or, les Italiens, aux dernières nouvelles, ça parle quand même avec les mains, ça vole pour un oui ou pour un non, ça se nourrit uniquement d'aliments qui terminent en i.
C'est un délit, c'est un
délit. Alors, s'il y a bien un peuple qui me semble pas hyper légitime pour être raciste envers les autres peuples, c'est bien les Italiens, quoi, tu vois. Et s'il faut devenir méchant, je ressors les dossiers qui font de la peine, hein. Mario Dastarac en tête, et je suis prêt à aller jusqu'à Vincent Moscato, y a pas de problème, hein. Alors, donc, avant d'être raciste dans une tribune, regarde d'abord ton propre pays, hein, pas vrai, Maréchal?
C'est vrai.
On est bien d'accord, merci beaucoup. Affirmatif. Je fais de leçon de morale à personne, ceci dit, le racisme dans le stade, je l'ai vécu. Je sais ce que c'est, enfin, je vais souvent voir le PSG avec Leïla. Donc voilà, je la vois bave aux lèvres, etc., tremblante d'agressivité, insulter les joueurs avec des références que personne ne comprend dans la tribune. Ta mère, elle est dans un roman de Marie Dario Stey. tout le monde est là comme ça, hein. Ouais. Bah, je dis, Leïla, qu'est-ce qui t'arrive? Tout est pas de gauche et tout. Si, mais là, on m'a piraté mon wifi et tout. Mon chien prévient jamais quand il rentre tard. À Noël, on m'a offert un pins le roi Merlin, je suis au bout du rouleau. Et du coup, voilà, la haine dans les stades, c'est avant tout la haine de soi. Alors, en attendant, il y a une solution toute bête pour que les joueurs noirs arrêtent de se faire emmerder, de morfler. Faut juste mettre une femme dans chaque équipe. Et voilà, il a pas dit que des conneries, Thierry Roland. Allez, bonne émission. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.
Merci, Guillaume. La bande originale. C'était très bien, Ernesto. Stéphane Kerber va nous parler donc de Marivaux dans quelques instants, puisque Marivaux est interprété par Laure Calamy et Vincent Dedienne. Et je rappelle que c'est une canette qui vient de s'ouvrir, et non pas un vent lâché par Daniel Morin.
Je le soupçonne d'ouvrir les canettes justement pour masquer.
C'est possible qu'il fasse ça.
On entend
des classe. C'est classe.
On est ravis de vous accueillir. Merci.
Mais avant de parler de Marivaux en musique dans les années 2000, Laure Calamy, écoutez Django Reinhardt. Écoutez cette musique, vous voyez quoi dans une
dans caravane.
Dans quelle situation? Écoutez-vous cette musique?
Dans quelle tenue? J'étais plutôt de dos, de profil. Quand t'écoutais cette musique, il y a vraiment aucune question. Il a tout bossé sur Marivaux, du coup le reste.
Je suis au bout du rouleau. En plus, il est 5h20.
Il est 5h, puis il y a Dominique Lavanant qui n'a pas de profil derrière.
Dominique, là-bas. Ah, je n'ose plus répondre.
Non, mais ça va pas, Vincent.
Mais
ça
non, va mais pas. J'ai rien fait.
En tout cas, belle imitation de Vincent par lui, là.
Donc, le Minor in Swing de Django Reinhardt. Pourquoi cette musique correspond à vos années 2000
et à nos années 60?
C'est ça, je sens que la vie pas née dans la bonne époque. Non, mais parce que voilà, c'était un moment où j'avais vu les films de Tony Gatliff et j'avais une espèce de passion. D'un coup, j'écoutais énormément.
Tout ce qui était manouche.
Voilà, de ces musiques. Et d'autant que cette musique-là, c'est mon premier disque. Lorsque j'étais petite. Et non, c'est un morceau voilà, que j'adore et que je réécoute, enfin, surtout après quand ça s'emballe.
Ça vous
et qui me donne. Ouais. Voilà,
qui vous met de bonne humeur.
Qui me donne envie de m'embraser.
Vous écoutez de la musique dans votre loge, par exemple, avant de monter sur scène au théâtre
Oui, parfois, ouais. J'adore.
J'adore un CDC. Avant d'y aller, c'est parfait. Non, parce que parfois,
les comédiens, quand ils sont au théâtre, aménagent leur loge.
Oui.
Alors, je sais pas, qui avec des bougies, avec des photos, avec des fleurs, avec des tentures, que sais-je. Enfin, je sais
ça,
pas.
C'est si votre loge, Nagui.
Je sais pas, non, je sais rien.
Non, mais,
non, mais
on écoute de la musique.
J'ai remarqué, contrairement à toi qui ne peux pas le remarquer, parce que tu ne vas pas au spectacle, que lorsque
vous avez été voir la pièce qui n'a pas commencé.
Lorsque nous allons, Léa et moi, dans les coulisses, saluer les comédiens, les comédiennes, chaque fois, il y a. Une part d'eux très intime dans la manière dont la loge est aménagée. Mm. Vous, par exemple, vous avez quels objets ?
Je peux avoir...
Non, mais c'est des photos ?
Non, mais oui, des mots... voilà, après les mots de première, on se met les mots qu'on
c'est
garde, etc. Ou, voilà, certes... Moi, c'est plus... ouais, je peux amener un livre que j'aime bien, voilà, pour me raccrocher comme ça certaines phrases ou certaines choses, et puis de la musique.
Ouais. Non, mais là, c'est la première fois, c'est la première fois toi, que tu vas jouer aussi longtemps.
Ah oui.
Dans un même lieu. Ouais. Parce que dans le théâtre privé, on joue longtemps. Là, on va être 4 mois dans le même endroit. Donc en fait, nos loges, c'est un peu, ça va devenir un peu nos chambres.
Vous allez plus vivre chez vous.
Ouais. Alors que d'habitude, dans le théâtre subventionné, par exemple, on joue, c'est beaucoup plus court. Donc t'as pas à peine le temps de mettre des photos dans ta loge et tout ça. Là, c'est vrai qu'en fait, et puis comme c'est un lieu tellement. C'est le lieu de l'angoisse par excellence, la loge, parce que c'est le lieu où tu flippes, où tu te regardes dans la glace, tu te dis, mais je vais pas y arriver. Et où c'est le sas entre la vraie vie et la fausse vie. C'est vrai que là, moi, je pense que je vais mettre des trucs aussi. Et inversement.
Et dans cette année-là, 2001, Laure Calamy, vous sortez du conservatoire et vous allez enchaîner tout un tas de petits projets. Vous dites dans les interviews, ça m'intéresse beaucoup, c'est ce côté... Mais non, vous l'expliquez dans les interviews.
Multiple, en tout cas, oui.
Oui, vous dites que c'était important pour vous de suivre plutôt les gens de votre génération, même si c'était des projets un peu moins payés.
Oui.
Et que c'était des projets peut-être moins comme ça, grand public ou en tout cas diffusés de façon massive. Et que pour vous, c'était votre privilège à vous, c'était de choisir ça.
Oui, voilà. Oui, exactement. Oui, des projets plus fragiles qu'on pouvait. Il y avait même un projet, où on était partis, on avait tous un mois ensemble, on a répété à Rennes, on était vraiment dans un garage, répété dedans, etc. Et après, avec ce spectacle qui s'appelait Happy People, on a vraiment joué dans plusieurs endroits. Enfin, ça a pris. Et pour moi, c'était des choses très importantes parce que c'était une manière de me construire comme actrice. Voilà, on parle de désir. Enfin, toujours dans ce désir-là très précis. Et c'est vrai que j'ai fait parfois des choix. J'avais joué un projet à la Comédie Française. Il y avait la tournée. J'ai refusé la tournée pour faire justement un projet avec un ami. Enfin voilà, c'est des choix comme ça où effectivement, après, j'ai plus des pattes, mais il y a quelque chose où. Voilà,
C'est des choix qui comptent pour construire une carrière selon vous.
Complètement, complètement, puisque après, justement, avec Vincent, par exemple, après, sur le long terme, ça porte ses fruits parce que. Et puis, on est à l'endroit.
On doit être, et vous réalisez à ce moment-là aussi un rêve, on va dire, aussi de jeune comédienne, c'est de travailler avec Olivier Py, dont vous avez vu pas mal de mises en scène, notamment une, je crois, en Avignon. Avignon.
Ouais, c'était La Servante à l'époque. Déjà. Donc ça durait.
Ça durait 5 heures. 8 heures.
Ça durait 24 heures, monsieur. Heures, ouais. Non, en fait, c'était pas 24 heures non-stop, mais il y avait 5 pièces à peu près 2 heures. Entre les 5 pièces, il y avait. Il y avait aussi du cabaret et tout ça. Il y avait Pi, donc qui chantait Miss Knife, tout ça. Il y avait des monologues aussi, dont un, je me souviens, qui était extrêmement beau parce que ça parlait de. Il y avait tout un truc avec le jour qui se levait. On était tous. Alors, il y avait des moments. On s'endormait bien sûr sur l'épaule du voisin, mais après il y a quelque chose où on sortait, le jour se levait, elle venait d'en parler. Enfin, il y avait quelque chose de.
Elle a mis Mireille Corée, quoi.
Hein non, tu peux pas.
Oh, d'accord.
C'était beau ce qu'elle disait.
C'est la parole performative du théâtre. Tout d'un coup, hop, ça apparaît, ça existe.
Voilà, et puis c'est surtout une traversée. Voilà. Non, mais bon.
Et donc, vous avez été amené à travailler avec lui. Comment ça s'est passé, cette rencontre? Parce que vous aviez vu La Servante, vous avez vu L'Apocalypse Joyeuse.
Puis comme, en fait, je viens à côté d'Orléans, et qu'il en était le directeur à l'époque. Et en fait, c'est au conservatoire. On faisait des ateliers de fin d'année, et il a écrit un texte pour nous, qui s'appelle maintenant Jeunesse, mais qui à l'époque s'appelait Au monde, comme n'y étant pas. Et qui a été, pareil, quelque chose d'extrêmement important. Enfin, et c'était cette rencontre avec lui, et on s'est retrouvés 13 ans après. Voilà.
À ce moment-là, vous écoutiez Vincent Dedienne du Renault.
Comme il y a eu Gainsbourg et Gainsbar, il y a le Renault et le Renard. Le Renault ne boit que de l'eau, le renard carbure au Ricard. Un côté blanc, un côté noir, personne n'est tout moche ni tout beau. Moitié ange et moitié salaud, et c'est ce que nous allons voir.
Et à ce moment-là, vous montez votre premier spectacle, Leïla.
Oui, on l'a évoqué tout à l'heure, Sabine Azéma, Victor Hugo sont dans un bateau. Vous êtes très très jeune, je crois, vous avez 14 ans quand vous avez écrit ça.
Ouais. C'était la première fois que j'écrivais un truc pour c'était la première fois que j'écrivais tout court et c'était un spectacle d'une demi-heure, c'était un one man show.
On va rappeler quand même c'est le titre hein. Sabine Azéma et Victor Hugo sont sur un bateau. Ouais. Je trouve ça formidable.
Et c'était un hommage à Muriel Robin Toto. Et Jean-Luc Lagarce. comme son nom l'indique.
Et ouais. C'était quand même aussi en vous déjà cette envie d'être
Pour moi sur scène, on était un.
Ouais.
J'avais pas j'imaginais pas qu'on puisse être plus que un sur scène, je sais pas pourquoi parce que j'avais vu, en fait, j'avais dévoré Muriel, Pierre, Zouk, Bedos. Enfin, c'était vraiment mes copains. Je regardais, j'achetais toutes les cassettes et tout ça. Et je savais pas tellement que le théâtre, ça existait. J'avais jamais lu. En fait, c'est après que j'ai lu Shakespeare, Molière et tout ça que je me suis dit, ah, mais en fait, au théâtre, on peut être plus qu'un.
Et vous auriez pu même devenir présentateur de jeux télévisés, je crois.
Ah non, parce que ça aurait voulu dire que j'aurais pas joué.
Ouais, mais
parce que moi, ce que je veux, c'est être candidat de jeux télé.
Mais à l'internat au lycée, j'ai cru comprendre que vous organisiez des jeux télé.
Ah oui, j'organisais des maillons faibles.
Et que vous forciez tout le monde à jouer.
Oui. J'étais dans un internat. En plus, j'étais le seul option théâtre. Moi, j'étais à l'option théâtre et j'étais le seul garçon dans l'option théâtre. Donc, il n'y avait pas de place à l'internat pour moi parce qu'il n'y avait que des filles. Et donc, on m'a mis dans l'internat, un autre internat de sportifs. Donc j'étais le seul option théâtre au milieu de footballeurs, de rugbymen et de basketteurs. Et en fait, j'étais hyper populaire parce que je leur faisais faire des maillons faibles. Et en fait, c'était... Et génial. J'écrivais des trucs pour les éliminer et tout ça. C'est là, Baptiste. Voilà. Et je...
Vous êtes sûr vous voulez pas aller voir un psy, vous êtes sûr, vous voulez pas.
Oh non, je vais décéder avant d'aller. Je vais mourir de chagrin bien avant d'aller voir un psy.
Ça fait 8 fois qu'il meurt depuis le début de cette émission. Je suis désolé parce que vous aviez préparé beaucoup de musique pour évoquer d'autres dates de votre carrière, mais je voudrais qu'on prenne le temps de parler avec Stéphane Carbert de Marivaux. Merci Stéphane de venir à ce micro.
Bonjour.
Oui, vous avez signé l'anatomie de l'action dans le théâtre de Marivaux chez Honoré Champion. Un joli.
C'est un gros bouquin, oui. C'est 650 pages.
Exactement. Ce livre propose d'éclairer le concept d'action, de structure, de construction chez Marivaux. Il est si particulier que ça dans son écriture, Marivaux.
En fait, voilà, je voudrais revenir sur le terme de marivaudage parce que c'est un des termes clés qui a été utilisé depuis le début de l'émission et c'est un mot qui se justifie. Mais en fait, mon livre, en quelque sorte, est une réponse contre le marivaudage ou au-delà du marivaudage. Parce que le marivaudage, c'est un terme qui a été inventé. On en parlait tout à l'heure avant l'émission. Donc, si les gens n'ont pas entendu, c'est normal.
C'est normal.
C'était avant l'émission. On parlait du marivaudage. Et je disais qu'en fait, le marivaudage, c'est un terme qui a été inventé quelque part par les ennemis de Marivaux. C'est-à-dire qu'il faut recontextualiser Marivaux.
Pour se moquer de la préciosité et de la légèreté avec laquelle on peut badiner avec l'amour. Parce
voilà.
Que avant que Musset interdise le badinage, là, c'était l'inverse.
Exactement. C'est-à-dire qu'en fait, Marivaux, quelque part, il est pris à partie par des auteurs très connus de théâtre à l'époque, en particulier Voltaire. Voltaire, qui est son rival, qui aujourd'hui n'est guère plus joué. Ouais.
Aussi vous vengez, c'est mesquin ce que vous
faites. Ah oui, je me venge, très méchamment, mais au nom de Marivaux quand même. Il y a Crébillon fils aussi qui est un auteur très connu.
Arouet va se lever, les héritiers Arouet vont se battre contre
je
vous.
Je prends le risque, c'est pas grave. Et il y a un troisième, Diderot aussi, qui a été celui qui a forgé le terme de marivaudage.
Donc pour être clair, le marivaudage, est-ce que c'est une manière d'évoquer des sentiments amoureux avec beaucoup de légèreté et de préciosité?
Mais c'est un terme qui est connoté péjorativement, c'est-à-dire que c'est un terme qui veut dire, c'est des intrigues en gros qui sont des intrigues qui ne mènent à rien, qui sont tarabiscotées, alambiquées et qui ne reposent quasiment sur rien, c'est-à-dire c'est des petites intrigues. Par exemple, un des détracteurs de Marivaux définit ces intrigues en disant que c'est des... qu'on parcourt quelques kilomètres sur un parquet. Voilà. Ça veut dire qu'on n'avance pas,
on tourne en rond.
Ouais.
Est-ce que le terme a existé du vivant de Marivaux?
Oui, alors encore une fois, c'est Diderot qui, vers 1760, donc Marivaux est encore vivant.
Plus longtemps, non?
Il est mort un peu après. Ouais. Mais le terme avait déjà été utilisé par d'autres, encore une fois, détracteurs de Marivaux. Mais voilà. Alors, c'est un terme qui met en jeu, quelque part, l'idée que Marivaux écrit des beaux dialogues, qui a éventuellement une introspection. Voltaire, il parle de métaphysique. de métaphysicien pour Marivaux, mais c'est pour se moquer de lui, pour dire qu'il, qu'il découpe
alors,
les...
Alors, si on se moque de lui, c'est qu'il a du succès de son vivant ?
Oui, alors là aussi, ce qui est intéressant, c'est que les deux créateurs qui ont le plus de succès rétrospectivement à la comédie française et à la comédie italienne, parce que ce qu'il faut expliquer, c'est que le paysage du XVIIIe siècle, c'est un paysage qui est assez méconnu. Il y a quatre lieux où on joue du théâtre. Il y a la comédie française qui est le lieu institutionnel. Il y a la comédie italienne qui est plutôt un théâtre déjà underground, un petit peu de côté. Et puis après, il y a la foire qui est un lieu plutôt très populaire. Et puis après, il y a les théâtres de société. Voilà le paysage parisien. Marivaux, la plupart de ses pièces, il va les créer à la comédie italienne. Et pas la comédie française. Il y a 30, sur les 36 pièces, il y en a 20 à peu près qui vont être créées à la comédie italienne. Voltaire, lui, crée toutes ses pièces à la comédie française. Donc ça donne déjà l'idée quelque part. L'un est plutôt dans le système, l'autre est un petit peu en décalé. Et Marivaux et Voltaire sont les auteurs les plus joués dans les deux institutions en question. Après, Marivaux va aussi créer quelques pièces à la comédie française, mais en général, ça va pas très bien se passer, justement. Mais voilà. Mais le jeu de l'amour et du hasard s'est créé à la comédie italienne.
Mmh. Il y a, alors,
oui, il préférait le jeu de, justement,
des Italiens.
Le jeu des Italiens qui était beaucoup plus vivant, qui s'appropriait corporel, beaucoup plus physique. Le texte, etc. Alors que les autres étaient plus dans une scansion, quelque chose de.
Tout à fait, purement vers. Quasiment vers.
Qui ne marchait pas avec.
Alors justement, à propos de cette modernité, tout à l'heure, on parlait de la modernité du propos, c'est-à-dire le mariage, le rang social, le fait aussi que les mariages forcés étaient. De mise à l'époque et que là au contraire donc il y a un contre-pied dans le jeu de l'amour et du hasard pour éviter ce mariage imposé. Est-ce qu'il était très moderne? Est-ce que c'était choquant pour d'évoquer ces sujets-là à l'époque?
Oui, alors Marivaux, il est moderne dans tous les sens du terme. Là aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'il fait partie du clan des modernes, la fameuse querelle des anciens et des modernes. Marivaux écrit dans un style qui est très décalé pour son époque, très critiqué. Il a un style qui lui vaut de plusieurs fois être recalé de l'Académie française. Il va finir par y rentrer devant Voltaire. Grand ennemi. Non, parce que ce qu'il faut expliquer, c'est que Voltaire monte des cabales pour faire tomber ses pièces.
Non, mais j'ai compris. Je comprends mieux votre t-shirt Fuck Voltaire que vous portez aujourd'hui. Voilà,
exactement.
Non, je vois que vous avez un problème avec Voltaire.
Non, j'ai pas de problème.
D'accord.
Il faut dire la vérité.
Non, mais Voltaire avait des problèmes avec beaucoup de monde.
Oui, Marivaux est un personnage beaucoup plus sympathique que Voltaire.
Ouais. Voilà. Après Voltaire aussi, on comprend pas.
Grand auteur.
Tu penses à Rousseau.
Voilà. Quand je pense à Rousseau, ça m'agace aussi.
Voilà. On parlera de Rousseau, du Carousseau notre fois.
Marivaux fait partie des trois auteurs les plus joué à la comédie française aujourd'hui ?
Oui, tout à fait. Oui. Alors, Marivaux, en fait, aussi, ce qu'il faut dire, c'est que c'est un auteur qui construit des intrigues magnifiques. C'est-à-dire, c'est pas simplement un fait de langue, c'est pas simplement un beau langage, c'est des intrigues extraordinaires. C'est-à-dire que, par exemple, Le jeu de l'amour et du hasard, on l'a dit tout à l'heure, c'est une pièce qui est construite de façon extrêmement merveilleuse au niveau des symétries. Par exemple, quatre personnages masqués, deux histoires d'amour qui sont justement ce que disait Vincent tout à l'heure, c'est juste, c'est qu'effectivement il n'y a pas de jugement moral ou de hiérarchie entre les personnages. Marivaux a un rapport humaniste avec tous ses personnages, quelque part il les aime et il donne des rôles magnifiques au Harlequin qu'il a créé. Il y a différents Harlequins, c'est aussi un grand expérimentateur, c'est ça qu'il faut dire.
Bah déjà, le mot marivaudage... De l'appeler Harlequin, c'est pas naïf non plus.
Oui, bien sûr, mais il va utiliser, on va dire, les codes du théâtre italien, il va en faire autre chose. C'est-à-dire que Marivaux, c'est un expérimentateur. Ce qui est gênant dans le mot marivaudage, c'est que ça restreint l'œuvre de Marivaux à un espèce de trait de cerne. Et c'est un peu comme les gens, on disait tout à l'heure, qui n'aiment pas Romère, qui disent c'est du Romère c'est ou c'est Romère du Woody Allen. Ouais. On a l'impression que c'est toujours la même comédie.
C'est limitatif.
Voilà, c'est limitatif.
C'est une étiquette, oui.
Alors sûr. Que, en fait, voilà, c'est un peu la chance de Shakespeare. On dit pas des Shakespeareades ou Corneille, on dit pas des Corneilles ou des Molièreades. Et Marivaux, il y a un problème avec le mot marivaudage, c'est que ça restreint énormément.
Tu vois, par exemple. Ça choque personne.
Ça choque personne.
Une pirade.
Non, mais je sais qu'on pourrait y passer des heures, et c'est ce que vous avez fait avec ce monument. L'anatomie de l'action dans le théâtre de Marivaux chez Honoré Champion, signé Stéphane Carbert. Pardon pour la brièveté de cette intervention, mais.
Merci beaucoup.
Merci en tout cas.
C'était très intéressant.
Et si Voltaire veut un droit de réponse, évidemment, il est le bienvenu.
Qu'il vienne, je l'attends.
Il vient. De pied ferme.
Il va tirer l'ermite, là.
Un duel.
Tanguy Pastureau, je suis ravi, c'est la rentrée, mais je suis ravi de vous retrouver, Tanguy.
Merci, Nagui, moi aussi.
Je suis ravi.
Mais oui, puisque je vois vos yeux qui pétillent, vous êtes heureux de me voir.
Bah oui.
Quant à moi, je vais rester assis parce que je suis tellement content que mon corps pourrait me trahir. Alors, je vais vous parler de la rentrée des Macron, Mélenchon, Le Pen, mais aussi de la rentrée des parents enfin débarrassés de leurs gosses depuis ce matin.
Très bien, une cascade de questions pour nos invités, des questions courtes avec des réponses courtes, Leïla.
Un livre à me recommander, Vincent.
Le mausolée des amants d'Hervé Guibert.
Ah oui, toujours Hervé Guibert.
D'un coup, parce qu'on d'accord, en a parlé tout à l'heure, ça me vient. Mais le petit traité de Vouchologie fondamentale de Vouch, enfin de
le dessinateur.
Le dessinateur Vouch qui s'est livré à un auteur et c'est génial.
Daniel Morin.
Laure, votre geste beauté du matin.
Le quoi ?
Votre geste beauté du matin. Ne riez pas, répondez.
Éteindre la lumière.
Changer de miroir.
Éliger la pénombre.
Albert Laure, vous faites du compost sur votre balcon, c'est vrai ?
C'est vrai.
Mais n'ayez pas honte, c'est bien le compost.
Oui, c'est bien. Si on pense à le descendre, parce que j'ai du jus de compost, c'est atroce.
Ouais, c'est ça, il y a un moment,
c'est très gros. Guillermo,
Le pins sur votre chemise, Vincent, c'est l'objectif lune.
Ouais.
Tintinophile, parce qu'il y a je ne sais pas si vous savez, Daniel Morin est très tintinophile.
Non, c'est Albert, surtout.
C'est la blague.
Non, il est autre chose, Phil, Daniel Morin. Oui, j'ai trouvé ça dans une brocante à Nantes.
Parce que c'est
passionnant, et c'est très radiophonique ce qu'on est en train de faire. Leïla.
Une bonne résolution, Laure, pour cette nouvelle année.
Être à l'heure au théâtre.
Hein, ouais. prendre le temps de voir mes amis.
Quelle est l'angoisse que vous avez l'un et l'autre pour cette pièce au Théâtre de la Porte-Saint-Martin ? Est-ce qu'il y a l'angoisse déjà d'oublier son texte, l'angoisse d'être en... Non mais parmi les cauchemars, ouais. Je parle des cauchemars de comédienne ou de comédien. Laure ?
Le cauchemar,
le trou de mémoire.
De devenir folle.
Vincent, vous, c'est déjà fait. Donc
Moi, je suis déjà bien toqué. De décevoir.
Bien tapé.
Bien toqué, j'ai dit. De décevoir Catherine, les partenaires.
Bon, on est tranquille. Tout ça n'arrivera pas. Au Théâtre de la Porte-Saint-Martin, le jeu de l'amour et du hasard, ça commencera le 16 janvier prochain. Et ils sont nos invités, Laure Calamy et Vincent Dodienne, jusqu'à midi et demi. Bonjour, soyez les bienvenus avec Leïla Kadourou-Déby, Guillermo, Tanguy Passureau,
bonjour,
Daniel Morin,
bonjour,
et nos invités Laure Calamy et Vincent Dodienne. Au Théâtre de la Porte Saint-Martin, le jeu de l'amour et du hasard, une pièce de Marivaux, mise en scène par Catherine Yégel, avec également Clotilde M, Nicolas Maury, Alain Pralon, Cyril Touvenin. Et tout cela donc mis en scène par Catherine Yégel, qui est autoritaire dans sa manière de vous diriger, ou plutôt complice. Vous avez retrouvé la prof que vous aviez au conservatoire ?
Oui, c'est-à-dire à la fois très exigeante, mais
c'est ce qu'elle veut.
Aimante aussi. Voilà, dans son exigence.
D'accord. Donc, Vincent, ce que vous avez ressenti, vous aussi ?
Oui. Elle est dure comme il faut et tendre. Et elle est pas. Non, mais. J'ai l'impression de parler d'une galette des rois.
Ou d'un moelleux au chocolat.
Elle est crousti-chaude.
Crousti-chaude.
Non, mais pourquoi je dis ça ? Non, mais parce que l'autre jour, elle a dit qu'elle, comme actrice, elle avait pas besoin de compliments. Que elle, ça la fait pas avancer les compliments en tant qu'actrice. Que elle, il faut juste lui dire machin. Donc c'est vrai qu'elle est pas, elle est un peu comme elle se. Je pense qu'elle se comporte avec nous comme elle aime qu'on se comporte avec elle comme en tant qu'actrice.
C'est-à-dire qu'elle se concentre surtout sur ce qu'il faut rectifier plutôt que de dire c'était formidable, mon chéri, bravo.
Oui, voilà.
Voilà, c'est ça. Elle est pas dans la complaisance du.
Non, voilà. Oui, non, elle est pas dans le.
Et comment s'est monté le projet Ça commence c'est monté le projet en fait.
Ah ben ça, elle l'a dit chez vous.
Oui,
si
mais
vous vous souvenez,
oui, mais non, mais c'est pour ceux qui n'ont pas écouté. Et quand c'est
non, ben en fait, on s'est croisés dans la rue.
Par exemple.
Un jour, on s'est croisés dans la rue, et je lui ai dit, je vous adore, je vous adore. Et elle m'a dit, ah ben non, c'est pas ça. Elle m'a dit, c'est elle qui m'a dit, je vous adore, je vous adore. J'ai dit, ah ben non, ça c'est pas possible. C'est moi qui vous adore, qui vous adore. J'étais stupéfait qu'elle me connaisse. Et donc on a commencé comme ça à se dire des mots doux. Après, je suis allé la voir jouer au théâtre. Et un soir où je suis allé la voir jouer au théâtre, elle a dit, on dîne ensemble après. Le directeur de la Porte Saint-Martin, Jean-Robert Charrier, nous a rejoint. Je me suis dit, qu'est-ce qui se passe ? Et ils m'ont dit, bah voilà, on
c'est
se dit.
C'est quoi cette soirée bizarre ?
Qu'est-ce que c'est ? qui va faire quoi avec qui ?
Soirée Martinet ?
Ouais, non, mais voilà. Et ils m'ont annoncé qu'ils avaient l'idée de.
Soirée Martinet. Attends, on va mettre une petite pause.
Quoi, soirée
c'est quoi
une soirée
Martinet? Non, parce que Martinet, dans la pièce.
Ah oui, dans la pièce, c'est une bougie.
Voilà.
Ah, d'accord. C'était un dîner au Martinet.
Voilà, il n'y a pas que Mago, il y a aussi.
Il y a aussi les chandelles.
Si tu proposes une soirée.
C'est la différence qu'il y a entre une soirée aux bougies et une soirée aux chandelles.
C'est ça.
Voilà, c'est ça.
C'est ça.
Donc, c'est plus excitant. Et ben non, mais en fait, voilà, et à la fin du dîner, ils m'ont dit qu'ils avaient eu l'idée que Catherine monte, me dirige en arlequin. Mm-hmm. Donc on a réfléchi ensemble.
Mais c'est vrai,
est-ce que ça serait Marivaux, est-ce que ça serait Goldoni, est-ce que machin.
C'est vrai qu'elle l'avait raconté à ce micro.
Elle l'avait dit. Ouais. Et moi j'avais entendu, j'avais fait, ah, putain, c'est fou, c'est donc vrai.
Tout est vrai. Tout ce que dit Catherine.
J'en croyais pas mes yeux.
Le jeu de l'amour et du hasard avec un décor très réaliste d'une maison cossue bourgeoise, en tout cas avec un formidable jardin. J'ai eu la chance de voir ce décor puisque la pièce ne démarra que le 16 janvier prochain au théâtre de la Porte Saint-Martin. On continue d'en parler avec Laure Calamy et Vincent De Dienne qui sont nos invités. Mais d'abord à 12h10, voici l'heure pour Tanguy Passureau de maltraiter l'info. Ça y est, c'est enfin la rentrée, Tanguy.
Oui, et depuis ce matin, soulagement, les enfants, ces petits branleurs qui savent gérer un iPad 3 ans avant d'être propres, sont à l'école. Dès 5h30, les parents harassés faisaient la queue devant le groupe scolaire en pleurant de joie. Quand la première maîtresse est arrivée, il y a eu une hola. Un homme lui a offert son rein au cri de Jules Ferry Akbar. 15 jours à se farcir Peppa Pig quand on a des petits, ou le rappeur Jules quand on a des ados. C'est comme Peppa Pig, mais sans les qualités littéraires. Aucun parent ne tient le choc. Si à Guantanamo, les ricains avaient foutu dans la cellule de chaque barbu un gosse qui chante en boucle le générique de l'intro-tro. En 20 minutes, les mecs avouaient tout, jusqu'à l'assassinat de Kennedy et leur responsabilité dans le massacre de la Saint-Barthélemy. À 8h30, devant la grille de l'école, les parents crevés sont écriés « Enfin seul, on peut faire l'amour !» Mais pas de bol, il fallait aller au boulot. Donc le City au Port a de belles journées devant lui. Qui dit rentrée dit aussi retour de Nagui, remplacé durant les Noëls par Leïla et Daniel. Deux personnes en remplacent une. Si tout le monde fait ça, demain, il n'y a plus de chômage. Vous virez Michel Chevalet, vous mettez les Bogdanov. Chez Arthur, vous virez Elise Moon, vous mettez Teddy Riner, qui compte pour 2 ou 16. Un Nagui toujours plus séduisant, car ce regard malicieux qui rappelle celui qu'a Donald Trump au moment de tweeter une connerie. Enfin, de tweeter, quoi. Se conjugue désormais à une peau dorée qui fait que quand Nagui passe devant chez Bannett, la dame le remet à sa place, avec les autres chocolatines. C'est au moment de mettre la barre de cacao qu'il crie « Non !» ou « Oui !» selon les jours. Quant à moi, j'ai passé un bon Noël. J'ai eu en cadeau le livre « Faire rire sans être accusé de racisme, ni de sexisme, ni d'homophobie, ni d'antisémitisme, ni d'islamophobie, ni de dérive droitière pour les nuls », qui comporte 2 pages de vannes sur Jean-Pierre, un mec blanc de 50 ans, issu de la classe moyenne, sans handicap, ni même de cicatrice d'appendicite, le dernier dont on peut se foutre de la gueule. Alors bien sûr, le 31, j'ai regardé les vœux de Macron, le président de la Win, qui nous a maté dans les yeux, comme s'il allait nous prendre un par un sur son bureau à l'Elysée, tellement à fond qu'il pourrait faire signer un contrat de confiance d'Arty à un manchot. Et autant Hollande, quand il présentait ses vœux, on avait envie de lui répondre merci, mais surtout la santé, parce que le reste c'est cuit, mon pote. Autant Macron, mais nous a transcendés.
Et oui, avec cette fameuse phrase, nous sommes la nation française.
Mais oui, c'est du Grégoire, toi plus moi, plus toi, plus nous, plus ta mère. Mais en mieux écrit, les Macron, Emmanuel et Brigitte sont également partis à la neige, à la Mongie, parce que c'est là que lui allait en vacances enfant, il y a 4 ans. Alors, moi aussi, j'ai voulu aller là où j'allais enfant pour les vacances. Je me suis présenté avec mon slip de bain de l'époque, du 6 ans, au club des petits loups de mer de Crozon. Malheureusement, ils m'ont pris pour un pédophile. J'ai fait 2 jours de garde à vue. Sinon, sachez que Nemo, le chien des Macron, n'était pas à la Mongie avec Ken et Barbie, puisqu'ils l'ont renvoyé plusieurs jours dans le refuge dont il l'avait sorti. C'est comme dans Prison Break, quand Michael Scofield se retrouve en tôle au Panama alors qu'il s'était évadé avec tous les psychopathes du coin. Il y en avait même un qui votait Bayrou. Nemo a eu un dressage destiné à le rendre, figurez-vous, plus présidentiel. Philippe Poutou aurait eu la même chose s'il avait été élu. Il urinait sur le parquet, bouffait les chaussures de Macron, un vrai ouf, un anarchiste nourri au frolic. Bon, là c'est réglé, le kleps est digne du lieu. Dès qu'il y a un despote qui vient acheter 30 rafales et notre dignité, il lui lèche le bas du mollet. À noter qu'Edouard Philippe a aussi fait sa rentrée, mais personne ne s'en est aperçu, comme d'habitude. il a dit que sur route, on roulerait bientôt à 80. Hein, donc, ça sert plus à rien de signer au PSG pour se payer une Bugatti. Hein, moins de 130, le véhicule cale. On va voir Neymar dans sa Maserati tirée par 4 mules. Jean-Luc Mélenchon a lui pété les plombs. Hein, c'est sa spécialité. La mère Poulard, c'est l'omelette trop chère. Mélenchon, c'est la tension à 27. Lors d'une manif hier, un agent de sécurité ne l'a pas reconnu. Hein, il doit regarder Zen TV, donc il a jamais vu Mélenchon. Et il a commencé à le palper. L'autre, outré, a répondu « Personne me touche hein, ». C'est comme avec Elisabeth II, les roturiers n'ont pas le droit de mettre la main dessus, ni même un doigt, en cas de soirée un peu plus sympa. Hein. Il y a les gueux, et au-dessus, entre Mercure et la sortie du cosmos, il y a Mélenchon. Enfin, Marine Le Pen a fait sa rentrée hier. Elle s'est dite favorable au changement de nom du Front National. Mais en même temps, c'est elle qui l'a planté, donc c'est à elle de prendre un autre nom. Hein, de dispo, il y a Martine Sanchez, Elodie Martin, Binta Diallo, si elle a envie de surprendre. Hein. Le champ des possibles est énorme. Alors, bonne rentrée à tous. Prochaines vacances dans 6 semaines. Tenez bon, les parents.
Merci. Le jeu de l'amour et du hasard. On disait tout à l'heure, en parlant de cette pièce et de son intrigue, pour ceux qui n'étaient pas là au début d'émission, un homme de... On va dire quoi? Bourgeois, noble, je sais même pas, un maître, mais dans ces cas-là, c'est quoi?
Bah oui, un bourgeois.
La noblesse,
ouais.
Un bourgeois. Grand bourgeois, ouais.
Voilà, d'un côté un bourgeois et son servant, de l'autre côté la bourgeoise avec sa soubrette, et chacun va inverser les rôles, c'est-à-dire que la soubrette va jouer le rôle de la bourgeoise et la bourgeoise celle de
c'est
la soubrette.
C'est carnaval, quoi.
Et l'inverse de l'autre côté, mais évidemment aucun des deux couples ne sait ce que l'autre couple a fait, et chacun va essayer de découvrir qui est véritablement l'autre, parce que c'est ça finalement l'intrigue, c'est de savoir qui aime qui, est-ce que l'on s'aime en fonction des apparences, de son rang, de son statut, de ses moyens aussi. La question est même clairement posée, est-ce que vous m'aimeriez si j'étais riche?
Oui.
Absolument.
Ok.
une si belle question.
Une si longue question.
Non, mais j'essaie de repitcher aussi.
Non, vraiment, si tous les bronzés ont eu le temps de repasser en régie. Parce que... Il y avait même eu Anémone qu'on avait plus vu déjà.
Et qui avait dit ne plus revenir.
Ouais.
Non, mais il a bien résumé.
C'est exactement ça.
Il dit à moi, quoi Lisette, si je n'étais pas ce que je suis, si j'étais riche, d'une condition honnête et que je t'aimasse autant que je t'aime, ton cœur n'aurait point de répugnance pour moi. Et elle répond assurément.
Merci Albert de m'avoir sauvé.
Mais à ce moment-là, elle sait qui...
Oui, elle le sait. C'est à la fin de la pièce.
Non, mais parce qu'il y a un mystère total dans la pièce, c'est qu'au moment où Sylvia... sait que, enfin, au moment où Dorante révèle qu'il n'est pas le valet mais qu'il est Dorante à Sylvia, Sylvia continue la mascarade. Oui. C'est-à-dire qu'elle pourrait dire, oui, mais c'est fou, moi aussi, je suis la maîtresse et tout va bien, on sait, mais elle continue.
C'est là
de
où elle
faire
joue,
quoi. Et c'est là, voilà, où elle, c'est là où elle, je sais pas, le génie de Marivaux.
Alors, moi je vois bien où est le jeu du de l'amour dans tout ça, ouais, mais le hasard.
Le hasard de la naissance.
Ah, d'accord.
Ben oui. C'est être bien né,
ou pas.
Ouais.
Ouais,
on est dans la vie. Là, on est dans la vie, on fait tranquille.
Exactement.
Mais de quel côté
on est à 50 ans de la révolution.
Pourquoi on aime exactement.
C'est Figaro au marché. Enfin, c'est ça. C'est vous ne vous êtes donné la peine que de bien être, en fait. C'est simplement l'idée.
Le jeu de l'amour et du hasard, mise en scène par Catherine Yégel pour Vincent De Dienne.
Non.
Bah si, c'est ça.
Que pour lui.
Bah oui, que pour lui. Après, ils se sont dit, bon, on va quand même trouver des bonnes comédiennes et des bons comédiens autour. On ne sait jamais. Des
fois, ça, c'est secondaire.
Des fois que Vincent soit à 5h25 à sa montre, on va quand même assurer ça. Avec Laure Calamy, Clotilde M, Nicolas Maury, Alain Pralon et Cyril Touvenin dans cette pièce.
Arthur Gomez et une chorégraphie de Cécile Bon.
Et il y a de la musique aussi sur
Oui, il y a deux violoncellistes. Oui. Absolument. Oui, Camille et Vérène.
Ah oui, d'accord, c'est-à-dire qu'ils jouent pendant que vous jouez.
Ouais, oui, ouais, en live, il y a de la musique en live.
Incroyable.
Ça, ouais, ça c'est trop bien.
Mais ça fait partie des idées de Catherine, de la mise en scène.
Ouais, dès le début elle a dit ouh, il y aura des violoncelles.
D'accord, ok, bah, on a hâte de découvrir ça. Ça sera
ils sont dans le décor à la grande fenêtre comme ça, ouais, et elle nous observe.
Comme dans un kiosque à musique dans le jardin, quoi. Ils sont en train de jouer. Ils sont à l'intérieur
dans la fenêtre de l'appartement, enfin de cette façade de l'appartement qu'on voit.
D'accord, très bien. Au théâtre de la Porte Saint-Martin, qui, pardon de l'expression, mais ils mettent les moyens, j'ai envie de dire, dans les décors, dans les budgets, non, parce que on est à une époque au contraire d'économie, et eux, ils mettent tout sur scène.
Bah oui. Bah ils doivent avoir. Je pense pas qu'ils s'endettent non plus.
Le décor. Non mais le décor me paraît riche.
Le théâtre fermera après cette pièce.
Oui, non, c'est pour ça qu'il faut venir parce qu'on est en tous en danger. On a tous hypothéqué.
Non, mais il y a une très belle programmation, faut le dire, au théâtre de la Porte Saint-Martin et du petit Saint-Martin aussi. Il y a beaucoup de propositions que l'on doit au patron.
Jean-Charles, moi, je suis très admiratif.
Oui,
mais parce qu'en fait, il est un peu tête brûlée. Il prend le risque de réconcilier des trucs, de faire une programmation à mi-chemin entre théâtre public et théâtre privé, là où a priori tout est extrêmement cloisonné, très fâché, même où il y a un fossé énorme. Lui décide de le combler, de faire venir Pommerat pendant des mois, de faire venir Cendrillon. Laurent Pelli après nous, de faire une distribution classique avec sans trop de vedettes. Là, il n'y a pas tellement de vedettes, ce qui est assez rare. La vedette, c'est Marivaux et c'est Catherine, mais c'est pas voilà. Tu vois ce que je veux dire?
C'est Marivaux, c'est Catherine, c'est vous avec Clotilde.
Oui, mais en vrai, les gens disent pas. Les gens se disent, disons, c'est il y a un risque quand même. Il y a un risque qui est pris de monter ce texte-là avec cette distribution-là.
D'accord, ok.
Pour lui reconnaître,
nous, c'est plutôt de l'appétit que nous avons plutôt qu'un sentiment de risque.
Non, ça, c'est cool.
Sincèrement. Ouais. Appétit que nous allons couper immédiatement avec Daniel Morin. Bien sûr.
Il me dégoûte. Ça va? Eh, bien reposé? Tranquille, il est rentré de vacances, le pharaon des RTT? Merde, 2 semaines de congé pendant que Lila et moi on suait sang et eau pour tenir la baraque. Pas chier, le gars. En même temps.
Tu parles pas de moi, là, rassure-moi. Si.
En même temps, 15 jours, c'est ce qu'il faut si tu veux passer au moins 24 heures dans chacune de tes résidences secondaires. Bref, il a l'air bien reposé, Nagui, et c'est ça qui compte. En même temps, est-ce qu'un Nagui bien reposé, c'est une bonne nouvelle? Je ne sais pas. L'avenir nous le dira. En vacances toujours, alors lui, il s'emmerde encore moins que Nagui. Lui, ses vacances, il les prend carrément hors période scolaire pour payer son billet d'avion moins cher, j'imagine. C'est notre président, Emmanuel Ier. Le gars, il est en Chine. Waouh, la Chine. Ça fait rêver rien que le nom. Exotisme et mystère à l'extrême. La Chine. Tu as envie de prononcer Chine comme s'il y avait 3 i. Chine. Dire juste Chine, ça gâche le truc. Chose qui n'arrive pas quand tu vas en Belgique. Tu ressens rarement le besoin de dire « J'étais en Belgique ». C'est vrai, il y a beaucoup moins de rêves dans cette destination.
Il y a moins de « i » déjà, oui, c'est ça.
Même si tu es invité chez Guillermo Guiz, le Belge de service aujourd'hui, Guillermo qui te fait faire la tournée des Grands-Ducs avec visite des bars à bière de Bruxelles, tapis rouge dans les bordels frontaliers, oui, bordels dans lesquels Guillermo a ses entrées et ses privilèges en tant que cousin germain du séduisant Dodo la Saumure. Mais bref, Emmanuel Macron est en Chine et moi, de savoir mon président aussi loin, ça m'inquiète. Et moi, quand je m'inquiète, je me roule en boule sous un meuble. Et moi, quand je suis sous un meuble, je fatigue. Et quand je fatigue, je somnole. Et quand je somnole, je finis par m'endormir. Et quand je dors, je rêve. Dans mon rêve, je suis au cœur de la délégation française qui suit le président. Je suis là, pépère, à suivre le cortège d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron est tranquille. Tranquille et impeccable à la fois, proche du peuple. Pour faire plus local, il est habillé en kimono. Quand les gens viennent le voir, lui serrer la main, ils lui disent « Bonjour, président Macron ». Il répond « Je vous en prie, appelez-moi Kung Fu Panda ». Bref, tout va bien. Quand d'un seul coup, j'entends comme marmonner derrière moi.
« Méfiance, méfiance, méfiance ».
Ah, mais c'est vous, Maréchal Ganache.
Affirmatif.
Qu'est-ce que vous faites là?
J'en sais rien, j'ai rien demandé, moi.
En même temps, c'est plutôt sympa de faire partie du voyage officiel en Chine.
J'aurais préféré l'Espagne.
Pourquoi l'Espagne?
J'en sais rien, mon vieux, c'est vous qui avez écrit la chronique.
Bon, bref. Qu'est-ce qui vous déplaît ici?
Vous le savez, Morin, j'ai comme un petit problème avec les populations asiatiques.
Lequel?
Je les déteste.
Oh, Maréchal.
Ta gueule! J'y peux rien, c'est comme ça, j'aime pas les Viettes.
Oui, mais c'est pas grave, vu qu'on est en Chine et pas au Vietnam.
Mais c'est pareil. Tout ça, c'est bonnet jaune et jaune bonnet. Ces gens sont fourbes, hein. Faut se méfier d'eux comme de la peste.
Non, mais alors... Attends,
attention!
Mais quoi encore?
Je viens de te sauver la vie, soldat.
Je crois surtout que vous venez de péter le nez du ministre de la Culture chinois.
Oh, bordel, ça sent pas bon. C'est rancunier, les Viettes. Ce soir, on est bon pour la tôle et après, c'est l'escalade de l'horreur. Demain, les bambous sous les ongles, électrodes sur les testicules, mutilations en tout genre. Je sais de quoi je parle. Pendant la guerre d'Indo, ces salauds m'ont amputé du cul en 1954.
Calmez-vous.
Heureusement, je ne suis pas venu les mains vides. Ah, à l'attaque, banzai!
Inutile de vous dire que cette petite explosion, en plus de décimer la délégation française et l'ensemble du gouvernement chinois, m'a quelque peu réveillé, mon cher Nagui. J'espère que la visite du président Macron va mieux se passer que dans mon rêve. En cas de conflit avec la Chine, je ne suis pas sûr qu'on gagne.
Je vous avais dit de vous méfier.
Alors, vous la ferme. À demain.
Merci.
Avec Nagui.
Nous parlons du jeu de l'amour et du hasard au Théâtre de la Porte-Saint-Martin avec Laure Calamy et Vincent De Dienne. Parlons aussi de vos projets. Le tournage de la nouvelle saison de 10% va commencer
le lendemain de la première pour Nicolas et moi.
C'est fou,
Nicolas Mauric. Et...
Oui, qui est également voilà. Présent à 10%.
Ah bah oui, ça va être...
Donc l'après-midi, vous tournez 10% et le soir, vous êtes au théâtre?
Le matin et l'après-midi. Oui, des okay. Petits pick-up à 6h30.
Très bien. Demandez voilà. Du Juvamine à Vincent. Voilà. Pour,
oui.
Pour
oh, oui. Oui.
J'en mettrai plein la
loge. Vous êtes également dans Hollywood, la série d'Arthur Benzaken qui passe en ce moment sur OCS.
Oui. Alors, j'ai pas pu le voir encore.
Mais vous êtes
oui,
dedans,
tout
en tout cas.
À fait. Oui, je suis dedans. Oui, oui. Tout
d'accord.
À fait.
Et puis, on vous retrouvera également dans Mademoiselle de Jonquière d'Emmanuel Mouret avec Édouard Bière.
Édouard Bière.
Ah non, mais. Édouard Bière.
Avec le vin, hein, la bière, maintenant.
C'est Sud de France.
Je ne peux rien faire pour ça.
Et vous serez également dans Rouler Jeunesse avec Éric Judor. Enfin, ça a été tourné ou c'est.
Alors,
ça va
oui, tout ça a été tourné. Et il y a aussi le film de Julie Bertuccelli avec Catherine Deneuve et Chiara Mastroianni.
Le dernier vide-grenier.
Voilà, de Claire Darling.
Et il y a nos batailles aussi?
Oui, oui, que je viens de finir.
Ouais. Ah ouais, mais ça, en fait, il y a eu, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, à partir du moment où vous étiez au conservatoire, vous n'avez pas arrêté de travailler, que ce soit au théâtre, au cinéma, à la télévision.
Non, mais voilà, vraiment, oui, j'ai fait beaucoup de théâtre ouais, pendant un certain temps. Et puis après, là, oui, depuis 6-7 ans.
Vous êtes comblée?
Oui. Ah bah oui.
non, parce que ça vous laisse peu de temps, j'imagine, pour vos loisirs personnels, votre vie privée? Tout ça, parce que ça me paraît très dense.
Mais elle n'en a pas, elle n'en a pas.
C'est ça. Elle se morfond chez elle. Non.
Avec un chat.
Comment vous dire? Elle n'a pas fait d'enfant en plus, donc elle rend service à l'humanité en même temps. Mais...
Et donc elle est folle.
Voilà.
C'est ça.
Non mais donc voilà. D'ailleurs je salue, non, j'ai quand même un amoureux mais qui est loin, donc c'est une difficulté en plus. Voilà. Mais bref...
Si vous voulez l'embrasser, c'est
voilà,
plus moins cher de le dire à la radio.
Je
très bien, n'hésitez pas.
Voilà.
N'hésitez pas.
Mais oui, effectivement, c'est. Bah non, mais en même temps, c'est. Voilà. C'est ce que je veux faire. C'est pas très intéressant,
très
les vacances.
quant à vous, vous allez reprendre ou pas votre spectacle selon scène?
Je refais quelques dates de tournée en mai-juin. Oui. Mais c'est fini.
D'accord. En mai-juin. Ouais,
après le Marivaux.
Au mois de mai, vous serez à l'affiche de la fête des mères de Marie Cassis Mention-Char avec Audrey.
Pardon.
J'ai dit une bêtise ?
Non, pas du tout. Non.
Avec Audrey Fleurot, Clotilde Courau et Nicole Garcia.
Oui, absolument.
C'est ça ?
Ouais.
Là, vous y jouez...
Nicole Garcia.
Ouais, qui fait ma maman.
Ah ouais.
Et là, vous faites quel rôle, quel personnage ?
Le fils de Nicole Garcia. On fait un couple...
Tout simplement.
On fait un couple. Qui d'ailleurs, c'est marrant parce que dans le film, elle est actrice... Et on a une scène ensemble dans la loge du Théâtre de la Porte-Saint-Martin, qui est ma loge aujourd'hui.
Magique, voilà. Un signe.
C'est pas hilarant comme
non,
anecdote.
Mais c'est la prémonition.
C'est intéressant.
Et vous serez également dans Premières Vacances, un film de Patrick Cassir, oui. Avec Camille Chamou et Camille Cotin. On revient là aussi dans la bande de 10%.
Oui, c'est vrai. Avec Camille, ouais.
Ça s'est déjà tourné ou pas?
Ça s'est tourné aussi, ouais.
Et vous allez écrire votre premier long-métrage?
Ah oui, je suis en train. Comment vous savez ça? Je l'ai dit à personne.
J'ai dit au pipeau. Comme ça,
ah bon? Ah ouais, le bluff. Eh ben, vous avez gagné.
Et alors,
oui,
de quoi ça va parler?
Je suis en train d'écrire. Ça va parler de. Douce pendant que je parle.
Non, mais c'était un peu long. J'ai meublé comme je pouvais.
Non, ça va parler de théâtre, d'amour et de choix. C'est un personnage qui va être confronté à des choix, à choisir entre deux mères, deux amours et deux candidats à la présidence de la République.
C'est vrai?
Ouais.
C'est fou, j'adore, j'ai hâte. Catherine Yagel était venue à ce micro, voilà ce qu'elle avait dit justement de la pièce.
On est venu comme ça,
pote.
Un peu, comme ça par hasard, parce qu'un jour je l'ai vu passer dans la rue, j'ai dit « je vous adore ». Mais comme ça, comme une groupie imbécile. Et lui, il est venu vers moi, il m'a dit oh, moi, je vous aime bien aussi. Je lui ai dit, vous me connaissez. Enfin, bon, bref, truc bête.
On rencontre,
quoi. Donc, voilà. Et puis après, je suis allé le voir jouer, venu me voir jouer. Puis on a parlé. Il m'a dit qu'il avait
envie de théâtre.
Voilà.
Voilà.
Elle a une belle voix.
Ouais, plus autoritaire, j'ai l'impression, pendant les répétitions. Des excuses à présenter, Daniel.
Évidemment, déjà désolé pour Vincent De Dienne qui a découvert ce matin l'impolitesse, le mépris, pour ne pas dire le non-respect de Nagui à son endroit. Il n'a pas arrêté de le tarabuster. Nous, on est habitués, mais je comprends que la première fois, ça puisse choquer. En même temps, 5 heures du mat, c'est pas facile pour une reprise. Désolé pour Guillermo qui a découvert ce matin qu'il pouvait y avoir des histoires d'amour et pas que des relations tarifées sur Internet. Bah ouais, mais... Il viendra, Guillermo, compte sur moi. Enfin, désolé pour Dominique Lavanant qui a été annoncée morte par Leïla Kadourdani. Non, Leïla, tu confonds avec Thierry Lhermitte. Bisous.
Non, non, arrêtez. Non, je veux pas avec ça. Tu voulais poser une
oui,
chose.
Oui, bah, que le jeu de l'amour et du hasard, ça sera en tournée. C'est pas qu'à Paris. Donc, vous allez tourner un peu dans toute la France. Comme ça, le théâtre vient à tout le monde.
Ouais. C'est mais important.
Dans chaque
ouais.
foyer.
Merci mille fois, Laure Calamy. Merci mille fois, Vincent
merci.
De Dienne.
Merci
demain, nous parlons de Normandie nue. Vous qui étiez nue sur scène, vous qui montrez votre sein. C'est encore la nudité sera au rendez-vous demain avec François Cluzet, qui est notre invité demain.